en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vieillir oui, mais vieillir bien. Le professeur Étienne-Émile Beaulieu, endocrinologue, est l'illustration parfaite de ceux qui, à plus de 80 ans, sont toujours en activité. Cet éminent endocrinologue travaille depuis toujours sur les hormones, et notamment sur la DHEA. C'est donc tout naturellement qu'au cours d'un colloque consacré au vieillissement après 60 ans, le professeur Beaulieu a pris la parole sur la possible mise au point de traitements préventifs de lutte contre le vieillissement. Écoutez sans plus tarder le professeur Beaulieu sur l'évolution des fonctions cérébrales au cours du vieillissement, les modalités de l'utilisation des hormones sexuelles chez les personnes âgées et les principaux facteurs influençant la santé au cours de l'âge. Cette conférence s'est déroulée à l'Institut de France en décembre 2007.
Dans les 50 dernières années, il y a une transition extraordinaire sur la dernière partie de la vie. On mourait relativement tôt, relativement rapidement. Les infections sont traitées, les maladies cardiovasculaires, on l'a dit ici plusieurs fois, également, bon, rien n'est parfait, mais il y a vraiment un changement, et les déficits cérébraux et les maladies dégénératives, et en particulier neurodégénératives avec la lenteur qui vient d'être évoquée par Jean-François Dartigues, les difficultés métaboliques dont on n'a pas beaucoup parlé, mais avec l'augmentation de la masse graisseuse, le diabète de type 2 auquel s'intéresse mon voisin président de cet après-midi, et d'autres aspects immunitaires et des cancers sont évidemment toute une série de questions dont il faut parler éventuellement. Et je ne parlerai que de quelques aspects, bien entendu. C'est particulièrement difficile parce que thérapeutiquement, c'est particulièrement délicat de proposer des essais à des personnes qui auront peu de bénéfices personnels, pour lesquels on dispose de moyens qui ont été expérimentés chez les personnes jeunes, alors que la pharmacologie, on le sait, change avec le vieillissement, sans compter les problèmes éthiques de consentement personnel ou familiaux, toutes les différences entre les personnes naturellement. Et ce dont on a évoqué le cas bien souvent, c'est-à-dire la pluralité des pathologies qui sont présentées. Alors, si on essaye de regrouper tout ce qui peut se passer, bien prétentieux, quand le temps s'écoule, avec tous les événements aléatoires qui peuvent se passer, le fonctionnement des gènes, naturellement, continue en fonction de leur structure, mais on sait maintenant qu'ils dépendent beaucoup, y compris eux-mêmes, donc, de l'environnement qui modifie tout leur, appelons ça, entourage chimique et par conséquent fonctionnel. Dans l'ensemble, j'exagère bien sûr, mais il est évident que beaucoup des aspects tellement importants de l'environnement dont on pense qu'il est responsable, grosso modo, il y a beaucoup de sortes de calculs qui ont un gène particulier exprimé qui modifie le vieillissement. Maintenant, il y a d'autres phénomènes très importants qui aboutissent déjà à une grande popularisation, tels que le resvératrol, produit qu'on trouve, on le sait, dans le vin rouge. Et nos amis bordelais ont été les premiers à savoir, n'est-ce pas Jean-François Dartigues, que ce n'était pas mauvais du tout d'avoir un peu de vin rouge de temps en temps à ce repas, et qui agit par l'intermédiaire de sirtuines, c'est-à-dire d'enzymes très pas compliqué en soi, mais très généraux, qui modifient l'ensemble du fonctionnement génétique. Ce sont des acétylases, peu importe. Et ce resvératrol, c'est aussi intéressant parce qu'il empêche, chez les animaux, on les traite, non seulement il augmente la durée de vie, mais il empêche le développement de nombreux cancers et de grossir quand on mange beaucoup. Enfin, un véritable paradis qui est ouvert pour les modifications métaboliques en vieillissant. Quant à la problème de la superoxydation des radicaux libres, qui a été discuté plusieurs fois aujourd'hui, si je vous donne mon opinion personnelle, c'est qu'en dépit des défauts des mitochondries, source d'énergie, et des instabilités génomiques qu'ils provoquent, les rapports entre leur fonctionnement et leur importance et le vieillissement sont absolument inconnus de façon sérieuse, et les médications qui font appel à bloquer les radicaux libres n'ont pas jusqu'à présent, à mon avis, de démonstration formelle d'activité, ni même d'expérience au laboratoire qui soit démonstrative. Alors il y a des choses extraordinaires. On a tout à l'heure parlé, et pour cause, de la maladie d'Alzheimer et de la substance amyloïde, sans rentrer dans le détail, ce qui est très important, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est exactement la même idée, mais j'aime la répéter. Quand on a fait des autopsies des gens de 40 ou 45 ans et qu'on a regardé les plaques amyloïdes, à peu près la moitié des gens avaient des dépôts qui sont tout à fait semblables à ceux que l'on observe chez des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Un peu moins important, mais pas toujours. Bien entendu, comme ces personnes étaient mortes d'accident, on n'a pas su quelle était leur évolution. Mais pour dire que ces maladies se développent très progressivement, très lentement, on le sait, et qu'on n'est pas près de trouver un moyen même de détecter, d'avoir un marqueur pour la maladie, puisque ça existe même chez des gens qui, très vraisemblablement, auront une évolution sans maladie ensuite. La perte modérée des neurones, notre ami Yves Agide en a déjà beaucoup parlé, et donc on sait que ça amène à de nouveaux concepts dans le domaine. Et c'est m'introduit un peu sur ce sur lequel je veux insister, qui a lieu souvent pour les traiter au niveau cérébral. Bien sûr, on peut réverser certains aspects de la perte de mémoire, je vais y venir. Bien sûr, le milieu enrichi dont Jean-François Dartigues vient de parler est extrêmement important pour faciliter la neurogénèse, autrement dit, plus de nouvelles cellules neuronales actives. Et les thérapies cellulaires, c'est pour demain, on le sait, mais ce n'est pas parce que c'est loin que ça n'arrivera pas. Alors regardons les stéroïdes auxquels je m'intéresse de façon un petit peu successive et rapide. Les estrogènes, bien sûr, il y a des cibles principales et la diminution à la ménopause, c'est quand même 50 ans, un âge critique qui fait entrer dans une nouvelle partie de la vie, sont importants et je ne veux pas discuter de cela, ils ont été évoqués en grande partie, directement ou indirectement, par Françoise Forêt, et très bien. Mais il y a la recherche qui va chercher des estrogènes, appelons-les spécifiques, pour tel ou tel type d'altération, et c'est ça la limite de la recherche actuellement, et on y arrivera, car les fonctionnements animés par les estrogènes au niveau des différents tissus diffèrent, bien entendu. Maintenant, au niveau du cerveau, parmi les choses très complexes que l'on a pu observer avec les estrogènes, il y en a un qui est tout à fait intéressant, qui est assez formidable, qui s'observe chez les femmes jeunes, qui pour une raison ou pour une autre ont un accident, chez les animaux jeunes, et chez, je crois, les femmes à la ménopause, qui arrêtent les estrogènes et donc sont en hypoestrogénie. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que si on arrête au niveau cérébral de donner le ravitaillement estrogénique pendant assez peu de temps, quelques mois, quelques semaines chez certains animaux chez qui ça a été testé, on ne récupère pas l'action des estrogènes que l'on pouvait démontrer au préalable. En d'autres termes, il y a un aspect de temporalité que l'on ne comprend absolument pas, mais qui est très important et qui amène à discuter chez les femmes ménopausées, en suivant la discussion ouverte tout à l'heure par Françoise, le problème de l'administration d'une médication qui, pour remplacer des estrogènes défaillants à la ménopause. Il est certain que de s'être arrêté pendant un certain temps au moment de la ménopause et de reprendre ensuite n'est pas bon. Et la WHI, la Women Health Initiative, qui a été montrée, a tout mélangé dans la cohorte qui a été présentée. Et ce type d'analyse a été refaite récemment par ceux-mêmes qui ont donné les premières indications qui ont amené la plupart, la moitié, disons, des femmes qui prenaient des estrogènes à arrêter, et, à mon avis, pas forcément à juste raison. C'est un problème qu'en France, nous allons essayer d'étudier et pour lequel les gynécologues de la France se sont actuellement déjà prononcés en faveur. Et quant au cas de la maladie d'Alzheimer, comme l'a dit François Forêt aussi, les femmes en ont moins, ont plus de maladies d'Alzheimer que les hommes, mais elles ont aussi moins d'estrogènes, ce que l'on ne sait pas. Une femme qui n'est pas traitée, une femme ménopausée, a moins d'estrogènes qu'un homme qui a encore quelques-unes de ses hormones formées à partir des androgènes qu'il continue à produire. Et par conséquent, le problème de la prévention, dont on a des sortes de contreparties expérimentales chez les animaux, se pose pour la femme. Il y a une contradiction extraordinaire entre les résultats actifs chez les animaux et ce qui se passe chez la femme actuellement, mais pour des raisons de manque d'études de cohortes bien faites, à mon avis. Autre hormone sexuelle, la progestérone. Alors peut-être vous savez, dans le cours de nos études de stéroïdes auxquelles Jean-François faisait allusion, nous avons montré que le système nerveux produisait des stéroïdes tout à fait semblables aux hormones connues, comme la progestérone, et en particulier les cellules de Schwann qui fabriquent la myéline, ici vue au microscope électronique en noir, qui entoure les axones et permet au courant, en quelque sorte, de l'afflux nerveux de passer. La progestérone est très importante. Si on la supprime par un produit pharmaceutique simple, vous voyez qu'après, quand se réparent les neurones, il n'y a pas de formation de myéline normalement. Il ne s'agit pas de toxicité. Si on ajoute la progestérone à ce produit, ça fonctionne très bien. Autrement dit, on a là un moyen de protéger, dans des expériences d'animaux, ce qui se passe quand on a fait une lésion, mais spontanément, dans le vieillissement, des vieux rats ont une myéline, l'entourage blanc donc des nez, qui est désorganisée, si vous voulez regarder, par comparaison, cette image et celle-là chez un jeune. Maintenant, s'ils ajoutent de la progestérone, le vieux plus de la progestérone, c'est pareil que le jeune, alors que si j'ajoute une autre hormone qu'on pourrait faire, il s'agissait de ramal, en mettant de la testostérone, il n'y a aucun changement. Autrement dit, il y a des moyens de modifier une évolution négative que l'on observe normalement au cours du vieillissement, autrement dit l'altération de la myéline. Ce que je vais vous montrer, c'est que des stéroïdes un peu spéciaux, que j'annonçais tout à l'heure, que nous avons étudiés et qui sont intermédiaires entre le précurseur, c'est toujours le cholestérol, et les hormones stéroïdes que vous connaissez tous classiquement, dont les estrogènes, la progestérone, les cortisones, etc., et qui s'appellent prégnénolone et DHEA, et qui n'étaient connus que comme des intermédiaires métaboliques dans la formation de ces hormones, d'une part, sont produits par le cerveau, nous avons appelé des neurostéroïdes, et d'autre part, ont des activités dont je vais vous parler, et des activités intéressantes, croyons-nous. Tout le monde sait que la DHEA diminue avec l'âge, c'est tout à fait évident, il y en a plus chez l'homme que chez la femme, c'est aussi bien connu. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Jean-François Dartigues, vous le voyez, et ses collaborateurs, et Mme Baird, à Paris, nous avons fait une étude il y a quelques années, sur, après une dizaine d'années d'observation de personnes incluses dans l'étude PACUID, une étude des risques de décès après 10 ans. Ici, ce sont les hommes de 65 ans. Et vous voyez que ceux qui avaient un taux bas de DHEA au départ, s'ils étaient non-fumeurs, avaient un certain risque de décès, évidemment calculé, alors que s'ils étaient fumeurs, c'était 7 fois plus. Ceci ne fait que confirmer le désastre pour fumer que tout le monde connaît, comme Maurice Tubiana l'a encore rappelé tout à l'heure. Mais chose intéressante, si le taux de DHEA au début de l'étude, c'est-à-dire ça a commencé en 1989, cette étude, enfin les premiers échantillons étaient de 1989, vous voyez que l'augmentation du risque n'est pas perceptible. Autrement dit, d'une certaine façon, d'après cette étude, on est protégé contre les dégâts de l'activité de fumée par un taux de DHEA. En tout cas, c'est une corrélation. Est-ce qu'il y a un rapport véritablement de cause à effet, naturellement, je le laisse à des discussions après d'autres études. Mais il y a des cas où la DHEA est véritablement, souvent on me demande, alors je montre des résultats que nous avons obtenus récemment, encore avec des chercheurs de Bordeaux d'ailleurs, mais d'un autre groupe que celui de Jean-François, qui portent, et ce sont d'ailleurs des pédiatres, ce qui est curieux alors que nous parlons de problèmes de vieillissement, mais qui étudient dans des conditions d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène, grosso modo la moitié de l'oxygène habituel comme à 5000 mètres d'altitude, entraîne une hypertension d'une artère qui amène le sang noir au poumon pour qu'il devienne rouge, et tout le monde le sait cela, et bien entendu il y a une certaine pression, et si on a une hypoxie, c'est-à-dire un défaut d'oxygène pendant quelques semaines, 3 semaines ici, il y a 30 de pression artérielle, peu importe les unités, au lieu de 10 normalement. La DHA ne fait rien quand c'est normal, Mais s'il y a eu 30, on passe à 10 en 10 minutes. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait étonnant. Il y a véritablement un traitement qui est en train d'ailleurs d'être testé dans 5 hôpitaux français, ce qui dérive de cette étude, à savoir l'effet de la DHEA chez les personnes vieillissant en insuffisance hypoxique du fait d'intoxication chronique par le tabac, par exemple, mais aussi de bronchite chronique et d'autres maladies pulmonaires. Et les premiers résultats ne sont pas mauvais, bien sûr. On attend la suite jusqu'à ce que l'essai soit terminé, c'est-à-dire dans environ un an et demi. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est pas la pression, c'est parce qu'il y a eu des changements métaboliques au niveau du muscle lisse des artères du poumon. Et vous voyez que l'hypoxie fait augmenter l'épaisseur musculaire, ça veut dire que les muscles travaillent plus pour faire l'hypertension, pour compenser en quelque sorte l'hypoxie. Si on donne de la DHEA, on corrige tout cela de façon significative. Et nous sommes amusés récemment, avec un ingénieur qui travaillait dans mon laboratoire, à monter un système où on a gardé pendant des mois en hypoxie des animaux, ici des souris, et en donnant ou en ne donnant pas, en plus de l'hypoxie, le cas échéant, de la DHEA. Et vous voyez, ces animaux que nous avons pris à environ 2 ans, nous avons regardé combien de jours ils survivaient, normalement 184, s'il y avait une hypoxie seulement 38 jours, c'est une très grande difficulté que d'être en insuffisance d'oxygène, on peut le comprendre, si on donne de la DHEA, on ne revient pas vraiment à la normale, mais il y a aussi un résultat positif et donc une survie augmentée. Donc il y a des effets directs. Il est difficile, compte tenu de la multiplicité des effets du produit, de savoir si tous les mécanismes impliqués sont les mêmes. Je pense qu'ils ne le sont pas, et nous avons en tout cas, par exemple, échoué pour démontrer l'effet tous les détails de l'effet pulmonaire. Autre chose, la mémoire qu'on a évoquée aujourd'hui. La mémoire est, bien entendu, chez les rats âgés, 24 mois, ça veut dire grosso modo 70 ans, 80 ans chez les hommes, c'est à peu près l'équivalent. Ces animaux meurent environ, vous l'avez vu tout à l'heure, à environ 30 mois. Eh bien, il y a dans cet échantillon qui a été fait dans le service du professeur Le Moal, qui était là tout à l'heure, et qui est par des collègues également de Bordeaux, eh bien, il y a en l'occurrence une étude modeste dans sa quantité, mais très claire, où il y a des animaux qui, en matière d'apprentissage, dans le test dit de Maurice, qui est de retrouver un mouvement vers une sorte de plateforme dans une piscine où elle est cachée, ou bien de reconnaissance dans un labyrinthe, enfin, les mêmes animaux à différents tests de mémoire, c'est de la mémoire spatiale, disons, pour simplifier, sont les mêmes avec un test ou avec l'autre. Et quand on mesure un des neurostéroïdes dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'appellerai ici PREG, dans l'hippocampe, dont vous avez entendu parler tout à l'heure de façon tout à fait précise et intéressante, en corrélation justement avec les phénomènes de mémoire, il y a une corrélation entre, en gros, plus de mémoire et plus de PREG, moins de mémoire et moins de PREG, et ceci est significatif. Corrélation, comme j'ai dit déjà avant pour autre chose, n'est pas démonstration, mais si on administre dans l'hippocampe, ici c'est chez le rat, le produit à des quantités infimes, de l'ordre de celles qui s'y trouvent naturellement, on ajoute 5 nanogrammes, vous voyez, nous sommes dans le milliardième de gramme, et par conséquent, pas très élevé, on a une formidable récupération de la mémoire spatiale testée par une des méthodes que j'ai montrées tout à l'heure, qui ne dure pas, naturellement, il faut continuer, nous avons fait ça aussi, de donner pendant plusieurs semaines se produit par une sorte d'injection directe dans le cerveau. Maintenant, il faut inventer une pilule de la mémoire. Je pense qu'elle s'inventera sur la base d'expériences que nous avons faites en prenant le composé naturel, PREG, son équivalent énantiomère. Énantiomère, pour ceux qui ont oublié ce qu'ils ont appris en chimie en suivant les indications du grand Pasteur, c'est l'inverse, ou disons l'image en miroir d'une molécule. C'est la même molécule, mais comme la main droite et la main gauche, on ne peut pas les superposer. Très normalement, pour Pasteur, qui a découvert le phénomène, la biologie implique que c'est ou l'un ou l'autre des deux énantiomères qui est actif dans la vie. Mais, dans le cas du cerveau ici, nous avons trouvé que le PREG est actif à 5 nanogrammes et son énantiomère est 10 fois plus actif. Pour avoir la même réponse sur la mémoire, il faut 10 fois moins de composés, comme vous le voyez en suivant ma flèche rouge. Et par conséquent, ce composé ne peut pas se transformer en autre hormone, et par conséquent, c'est l'embryon d'une méthode qui pourra être utilisée en médecine comme produit sans effet secondaire trop important. Le dernier exemple que je veux vous montrer est celui qui m'intéresse le plus, c'est celui sur lequel on travaille en ce moment et qui est dû en particulier au travail de mon ami Paul Rebel, et qui est le suivant. Dans le système nerveux, tout particulièrement, même s'il y en a ailleurs, il y a des microtubules. Pour ceux qui ne sont pas du tout biologistes ici, vous savez que les microtubules sont évidemment des petits tubes qui transfèrent dans les cellules, et en particulier dans les neurones, parce que souvent ceux-là sont longs, les ingrédients nutritifs, et aussi bien qu'informatifs, hormonaux et autres. Et ils sont faits, ces petites boules le montrent, d'une seule protéine qui s'appelle la tubuline, le même nom. Et il y a en plus des tas de protéines qui en modifient la formation, le développement, le fonctionnement, et en particulier microtubule associated protéine numéro 2. Et nous avons trouvé, par une série de hasards, bien entendu, que cette protéine, MAP2, liait spécifiquement le neurostéroïde dont nous avons déjà parlé. Et c'est pas une liaison, n'a aucun intérêt, c'est un phénomène physico-chimique, c'est intéressant sur ce plan, physico-chimique, mais pas intéressant biologiquement, sauf que quand on a MAP2 seul, on a une polymérisation, c'est-à-dire un agrandissement des microtubules que suivait la ligne bleue, qui est modeste avec le temps. Si on ajoute la pregnenolone, on a un effet tout à fait supérieur. C'est donc un stimulant de cette polymérisation. Et nous avons montré, par les méthodes de biologie moléculaire contemporaine, en particulier la méthode de l'ARN dont on peut supprimer le fonctionnement, que MAP2 est donc un récepteur de la pregnenolone. Ce neurostéroïde, donc formé dans le cerveau, on peut en faire un analogue chimique un peu modifié. Et l'intérêt, c'est que cet analogue ne peut pas se transformer dans l'organisme en métabolites hormonaux. Par conséquent, lui aussi a une spécificité possible qui permettra d'avoir, et qui permet d'avoir, nous l'avons démontré complètement, comme le composé naturel, un effet sur la liaison à MAP2, deuxièmement, la polymérisation des microtubules, l'augmentation des dendrites dont vous a parlé si savamment Yvagite tout à l'heure, et chacun sait, il l'a dit d'ailleurs, c'est la base même de la plasticité dans le système nerveux, c'est-à-dire la possibilité d'interaction entre les cellules nerveuses et de fonctionnement du système nerveux de façon complexe, comme on le sait. Nous avons vu que, en fait, d'ailleurs, par des études d'abord in vitro, ensuite in vivo, ici c'est in vitro avec des cellules qui, quand on les stimule par l'équivalent de la PREG, de ce neurostéroïde qui s'appelle 43-43, on ne voit pas très bien sur cette figure, mais croyez-moi, il pousse des dendrites qu'on voit et qu'on ne voit pas dans le contrôle qui est là-haut. Et nous sommes dit, voilà, voyons si ça a un effet sur le fonctionnement. Et dans cette dernière diapositive, je vous dis ce que nous avons fait récemment, pour lequel je ne vous montre pas les résultats parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. Merci de croire à ce que nous avons observer. Nous avons commencé par des choses très simples, traumatisme de la moelle épinière, avec ce que ça a par des compressions ou des contusions. Nous avons fait faire les expériences par d'autres laboratoires pour vérifier que nous n'étions pas soumis à une illusion d'expérimentateurs trop enthousiastes. Et en l'occurrence, il y a, vous le savez, le développement d'une paraplégie et par conséquent d'une paralysie dont les conséquences sont dramatiques pour l'individu. Et nous avons démontré que quand on donne dans les 24 heures qui suivent le produit MAP43 et que l'on fait ça pendant 3 ou 4 jours après le traumatisme cérébral, on avait la guérison, disons, ou le non-développement de la paraplégie. Autrement dit, on savait remettre en route le système nerveux traumatisé dont les cellules autour de ce qui est détruit définitivement, qui n'est pas réparé, s'appellent les cellules de la pénombre, montrant bien que c'est prêt à aller vers la lumière de l'action ou au contraire de la déchéance obscure du manque d'activité. Eh bien, ces études ont maintenant reçu un assentiment européen, un brevet, un statut de de produits orphelins, comme on dit, et les études préliminaires ont montré qu'il n'est pas du tout toxique chez l'homme, et donc les études thérapeutiques commencent ces jours-ci, on peut dire, dans quelques semaines. C'est vrai pour la moelle épinière, c'est vrai également pour le cerveau, et pour regarder ce qui se passe après les traumatismes du cerveau, ce sont d'une part des études d'imagerie et d'autre part des études de fonctionnement cérébral, et en particulier de sensibilité, qui montrent que le phénomène est le même. Bien sûr, et ce sera ma conclusion, notre ambition dans ce domaine, c'est d'utiliser un produit que l'on utilise ici seulement de façon, appelons ça, aiguë, c'est-à-dire pour corriger quelque chose qui vient de se passer, un traumatisme, voire peut-être d'ailleurs une lésion d'origine vasculaire, eh bien, nous voudrions voir si ce produit n'est pas toxique, de telle sorte que quand on l'utilise de façon prolongée, on puisse remédier à un des déficits qui dépend du vieillissement ou qui est associé au vieillissement et qui est justement l'altération des microtubules. Il faudra faire de longues études précliniques et avoir les moyens pour le faire. Nous espérons et je vous remercie de votre attention.
Entendre Étienne-Émile Beaulieu répondre à la question des possibles traitements préventifs de lutte contre le vieillissement, une intervention qui s'est déroulée dans le cadre d'un colloque consacré au vieillissement après 60 ans. C'était en décembre 2007 à l'Institut de France. Restez sur Canal Academy. Dans le cadre de la retransmission de cette journée, vous trouverez sur notre site en libre écoute et libre téléchargement Robert Rochefort, directeur du CREDOC, sur la question des aspects socio-économiques du vieillissement. Également sur notre site, le parcours du professeur Étienne-Émile Beaulieu, enregistré au studio de Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.